Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 17h à Paris, 15h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
À Gaza, plus aucun camion d'aide humanitaire n'est entré. Depuis 2 mois, jour pour jour, des militants de la flottille pour la liberté affirment aujourd'hui que l'armée israélienne a tiré sur un de leurs navires chargés d'aide dans les eaux internationales au large de Malte, navire qui voulait justement contester ce blocus israélien. La Syrie qualifie d'escalade dangereuse la frappe israélienne près du palais présidentiel syrien. Israël a renouvelé son avertissement aux autorités syriennes contre toute atteinte à la minorité druze après des affrontements qui ont fait une centaine de morts. Apple fait mieux qu'espéré au premier trimestre. Les résultats de l'entreprise sont supérieurs aux attentes, stimulés par le redressement des ventes de son produit phare, l'iPhone, mais les investisseurs restent inquiets pour l'avenir. Et puis du football, la fin de la saison approche. Derrière Paris, largement en tête du championnat, quelques clubs français redoublent d'efforts pour accéder aux places européenne. À Gaza, la défense civile annonce 29 morts ce vendredi dans plusieurs frappes israéliennes dans différentes localités de l'enclave. À ces bombardements s'ajoute pour la population la quête perpétuelle de nourriture. Depuis 2 mois, Israël impose un blocus sur l'entrée de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Plus aucun camion n'est entré depuis le 2 mars. Les opérations humanitaires sont au bord de l'effondrement total selon la Croix-Rouge. C'est dans ce contexte qu'un navire humanitaire appartenant à la flottille pour la liberté a été pris pour cible cette nuit au large de Malte. Selon l'organisation, le bateau devait prendre la mer ce matin pour porter assistance aux habitants de Gaza lorsqu'il a été attaqué par des drones, comme le raconte Claude Léostic. C'est la représentante en France de la flottille pour la liberté.
Le bateau attendait dans les eaux internationales au large de Malte et à 0h23 exactement, deux drones ont attaqué le bateau, c'est-à-dire qu'ils ont fait 2 tirs, l'un qui a touché les installations du moteur, en gros, et l'autre, la coque, où il a fait une brèche importante et le bateau prend eau maintenant. Il y a à bord 30 internationaux, des militants, des personnalités, etc. Greta Thunberg était supposée monter à bord ce matin. Alors, ce qui est absolument scandaleux, c'est que le bateau a émis immédiatement un appel de détresse et que les autorités maltaises n'y ont pas répondu. Or, le droit maritime international impose qu'on aille secourir un bateau en détresse et rien n'a été fait. Donc, ils sont en train d'essayer de colmater. Mais il n'empêche que c'est une attaque très grave. Heureusement, personne n'a été blessé, mais ça aurait pu être encore plus grave que ça ne l'est.
Des propos recueillis par Muriel Paradon. En 2010, Israël avait lancé un assaut meurtrier contre un navire d'une flottille internationale d'aide humanitaire venant de Turquie. L'opération avait coûté la vie à 9 militants turcs. L'armée israélienne qui a frappé aussi ce matin les abords du palais présidentiel syrien à Damas. Une frappe très symbolique qui intervient dans un contexte tendu alors que l'un des chefs religieux de la communauté druze de Syrie a accusé hier le pouvoir du nouveau président Ahmed al-Sharaa de génocide. La Syrie, de son côté, a qualifié d'escalade dangereuse cette frappe. Alors Pierre-Olivier, pourquoi Israël défend les druzes ?
3 raisons principales. D'abord, la communauté druze est présente en Israël, une communauté bien intégrée, avec des jeunes souvent enrôlés dans l'armée et qui se sont battus pour Israël, notamment lors de la guerre contre le Hezbollah. L'État israélien répond donc à une demande de ses propres citoyens druzes, qui ont de la sollicitude pour leurs frères de Syrie et souhaitent qu'on leur vienne en aide. Deuxièmement, il y a un aspect stratégique dans l'intervention d'Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a toujours observé avec méfiance l'arrivée au pouvoir d'Ahmed al-Sharaa, qu'il considère comme une menace islamiste à ses portes. Pour rappel, Ahmed al-Sharaa était, avant la chute de Bachar al-Assad, le chef du groupe Hayat Tahrir al-Sham, dont de nombreux combattants étaient des djihadistes. Épauler les druzes syriens est donc pour Israël un moyen de renforcer sa présence dans le sud de la Syrie pour prévenir toute intrusion potentielle sur son territoire. Enfin, c'est aussi un coup plus politique que joue l'État hébreu, divisé pour mieux régner, car en soutenant la communauté druze syrienne, Israël cherche aussi à affaiblir le pouvoir de Damas et, in fine, à déstabiliser Ahmed al-Sharaa.
Pierre-Olivier, l'Allemagne se dit profondément préoccupée par les affrontements qui ont eu lieu en Syrie entre combattants druzes et groupes liés au nouveau pouvoir. La Syrie ne doit pas devenir le terrain de jeu des tensions régionales, indique le ministère allemand des Affaires étrangères. Pour la première fois, la situation des journalistes et des médias est devenue difficile au niveau mondial. C'est la conclusion du dernier rapport de Reporters sans frontières. Au Proche-Orient, en Palestine, la situation est désastreuse, selon l'ONG qui accuse l'armée israélienne d'avoir détruit des rédactions et tué près de 200 journalistes. Parmi les entraves à la liberté de la presse dans le reste du monde, l'organisation pointe les contraintes économiques, notamment la concentration des médias au sein de milliardaires, mais aussi la mainmise des géants du numérique, Google, Facebook et consorts. RSF dénonce également une dégradation inquiétante de la situation aux États-Unis depuis le retour du président Donald Trump au pouvoir. Le locataire de la Maison-Blanche a d'ailleurs signé hier un décret visant à réduire le financement de deux médias publics, la radio NPR et la chaîne de télévision PBS, qu'il accuse de partialité. Les résultats d'Apple au premier trimestre sont meilleurs que prévu, stimulés notamment par le redressement des ventes de l'iPhone. Mais le géant de la tech s'attend à une hausse de ses coûts plus tard dans l'année à cause des droits de douane imposés par Donald Trump, mais suspendus pour 3 mois. Dans ces circonstances, Agnieszka Kumor, le groupe tente de rassurer ses investisseurs qui restent toutefois assez inquiets.
Le patron de la firme à la pomme, Tim Cook, l'assure. Pour l'instant, les produits d'Apple en provenance de Chine sont à l'abri des tarifs punitifs en attendant leur examen par le gouvernement américain. Oui, mais même taxé à 20%, l'impact sur les prix n'est pas négligeable, rétorquent les investisseurs. L'entreprise a donc pris les devants. Pour le trimestre en cours, la majorité des iPhones vendus aux États-Unis proviennent d'Inde. Cette décision permettra d'éviter les droits de douane de 145% appliqués aux produits venus de Chine, le lieu traditionnel de leur fabrication. Les iPads, les ordinateurs, les montres connectées ou les écouteurs auront, eux, pour origine, le Vietnam. Si la marque à la pomme s'en est bien tirée avec près de 25 milliards de dollars de bénéfices nets en début d'année, il ne sera pas facile de poursuivre ses performances. Sa politique de prix sera scrutée de près dans un contexte d'incertitude sur l'économie et les approvisionnements.
Précision signée Agnieszka Kumor. Cette alerte au tsunami déclenchée par les autorités chiliennes. Alerte déclenchée après un séisme de magnitude 7,5 en mer à l'extrême sud du pays. Les habitants de la côte de la région de Magallanes sont appelés à évacuer. En France, 21 suspects présentés à la justice aujourd'hui pour des attaques contre des prisons et des agents pénitentiaires. Derrière ces attaques, nombre des narcotrafiquants de la DZ Mafia. En football, la fin de la saison approche. En Ligue 1, on sait depuis longtemps que le PSG sera sacré champion de France. En revanche, le suspense reste entier pour les places européennes. Alors que la 32e journée débute ce vendredi avec Nice-Reims, la bagarre pour la qualification à la Ligue des Champions est toujours aussi intense. Cédric De Oliveira.
6 équipes en 4 points et un sprint final complètement fou. À 3 journées de la fin du championnat, l'OM et Leonardo Balerdi n'ont toujours pas la garantie de finir sur le podium. Mais le défenseur argentin adore ce genre de scénario.
Maintenant, c'est le moment plus joli pour jouer. Non, quand il y a cette pression, cette chose, j'aime trop jouer ce type de match.
Deuxième de Ligue 1 avec 58 points, l'OM est le mieux placé avant d'aller à Lille ce week-end. Troisième à seulement 2 points des Phocéens. Ce choc pourrait donc tout remettre en question. De toute manière, pour le nordiste Thomas Meunier, son équipe doit presque réaliser un sans faute.
On joue 2 matchs à domicile, on doit faire le nécessaire. Vraiment, c'est nous et nous-mêmes. Mais on doit faire le job. Franchement, c'est au minimum 7/9 sur les 3 derniers matchs si on veut espérer aller directement en Champions League.
L'objectif, c'est donc de terminer sur le podium pour espérer jouer cette Ligue des Champions ou 4e pour être barragiste. Place occupée pour l'instant par Monaco qui se rend à Saint-Etienne. De leur côté, après un début de saison compliqué, Lyon et Corentin Tolisso sont toujours dans la course.
Il faut avoir cette régularité sur les derniers matchs, essayer de bien finir cette année. Et voilà, si on peut aller en Ligue des Champions, on pourra être fier de notre saison.
L'OL est 5e avec 54 points, tout comme Nice et Strasbourg, respectivement 6e et 7e. Quel que soit le club, le faux pas est donc exclu ce week-end pour continuer à rêver.
Et donc début de cette 32e journée avec Nice-Reims, coup d'envoi 18h45 TU. Tout de suite, place à la culture avec vous Nathalie Amar. Bonjour.
Bonjour Charlotte.